Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Parmi les audiences inscrites dans son agenda, le pape Léon XIV a reçu vendredi la présidence de la Commission des conférences épiscopales de l'Union européenne, COMECE. Parmi les préoccupations des évêques européens exprimées au pape figure la protection de l'environnement. Ils ont pu ainsi présenter l'appel qu'ils ont lancé conjointement avec le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM, pour dénoncer l'exploitation et le pillage de matières premières en Afrique. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi à l'île Maurice et au Tchad, avant de passer à l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira quant à elle au Niger et au Soudan du Sud. 10 ans après la publication de Laudato Si, les problèmes dénoncés par cette encyclique du pape François restent d'actualité et semblent même prendre une ampleur démesurée. C'est ce dont nous parlera Tebaldo Vinci Guerra, spécialiste de l'environnement au sein du Dicaster pour le service du développement humain intégral, avant de conclure l'édition de notre programme avec le tour d'horizon que nous ferons sur l'actualité internationale de la semaine.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
La présidence de la COMECE, la conférence des épiscopats des États membres de l'Union européenne, a rencontré vendredi le pape Léon XIV. Un rendez-vous prévu de longue date et maintenu par le nouveau pape qui a pu se familiariser avec l'instance de représentation et de dialogue de l'Église catholique avec les institutions européennes. Parmi les préoccupations des évêques européens figurait la protection de l'environnement. Ils ont pu ainsi présenter l'appel qu'ils ont lancé conjointement avec le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM, pour dénoncer l'exploitation et le pillage des matières premières en Afrique. Suivant à ce propos Mgr Antoine Eroard, vice-président de la COMECE, des propos recueillis par Xavier Sartre.
L'Europe s'est engagée dans la conversion écologique de façon assez résolue dans le premier mandat de Mme von der Leyen avec ce qu'on a appelé le Green Deal et donc tout un tas de mesures qui ont été prises. Et notre souci comme Église, c'est de dire bien, attention à ce que ce ne soit pas une façon simplement de renvoyer à d'autres les industries polluantes ou l'extraction, donc par exemple, des minerais qui peuvent avoir des conséquences importantes pour l'environnement dans d'autres régions, en particulier en Afrique. Et donc c'est vraiment cela qu'on a voulu souligner en disant il ne faut pas que l'Europe se présente comme... entre guillemets, le continent vertueux sur ces questions écologiques au détriment des autres.
C'est une demande qui a été exprimée aussi de la part des épiscopats d'Afrique.
Je pense qu'ils sont assez sensibles à cela. C'est-à-dire que comment est-ce que s'effectue le développement des pays africains et est-ce que, alors sous une forme peut-être de néocolonialisme, il n'y a pas aussi une façon d'user et d'abuser de leurs propres ressources. Alors c'est vrai pour l'Europe, mais c'est vrai aussi pour d'autres. Je pense aussi bien aux États-Unis qu'à la Chine, qui a beaucoup investi en Afrique, mais parfois avec des méthodes qui ne sont sans doute pas complètement respectueuses et des personnes qui travaillent là et des ressources naturelles du continent.
Toujours au Vatican, le secrétaire d'État du Saint-Siège a présidé jeudi, dans la basilique Saint-Pierre, la messe d'ordination épiscopale de Mgr Ignazio Tchefalia, nonce apostolique en Biélorussie depuis le 25 mars. Le ministère de l'évêque est un don destiné à toute l'Église, ce qui implique que l'élu ne vit plus pour lui-même, mais pour la communauté à laquelle il est nommé. C'est ainsi que le cardinal Pietro Parolin a présenté la mission des évêques dans son homélie du jeudi 22 mai. Il s'est dit également convaincu que le prélat affrontera sa nouvelle mission dans la certitude de la grâce de Dieu, malgré les défis internes de nature politique et socio-économique, mais aussi religieuse en raison des relations avec ses frères orthodoxes et face aux tensions liées à la tragique guerre en Ukraine. Jeudi, l'archipel de Chagos a été officiellement rétrocédé à l'île de Maurice. Ces 55 îles situées au milieu de l'océan Indien entre Maurice et le Sri Lanka avaient été vidées de leur population par les Britanniques dans les années 70 pour y installer une base américaine. Mgr Jean-Michael Duron, évêque de Port-Louis, témoigne de la joie de l'église locale qui a accompagné les Chagossiens et Chagossiennes dans leur exil de plus de 50 ans. On l'écoute.
Disons, l'Église a été aussi pape prenante. Ils ont rencontré le pape François. 2023, je crois. Le pape François aussi a signifié son soutien au peuple chagossien. La conférence des évêques de l'océan Indien aussi ont soutenu parce que ce combat était une cause juste. Je crois que c'est là pourquoi ce combat a eu autant de retentissement, parce que c'était une cause juste. Mais moi, comme évêque de Port-Louis, ma mission concerne autant le peuple agaléen que mauricien. Et puis nous avons les Chagos, même s'il n'y avait pas de population, c'était aussi pour bien montrer que nous reconnaissons, même s'ils sont un peuple de déportés, leur identité culturelle, leur identité spirituelle. J'avais à le reconnaître et reconnaître aussi qu'ils font partie aussi de l'Église à Maurice dans cette même mission. Je pense que c'est de ceci aussi que nous parlerons avec l'État mauricien. Comment ce retour est possible pour pouvoir restaurer ces lieux de mémoire pour ce peuple, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas pu aussi être enterrés dans leur terre. Puis comme nous disons, comment nous pourrons après de leur dire, mais concrètement, qu'est-ce que cela redemandera? Est-ce qu'il y aura une communauté qui ira là-bas et comment nous allons alors mener plus une présence d'église sur le lieu?
Monseigneur Jean-Michel Durone, évêque de Port-Louis, des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Et au Tchad, plus de 5000 fidèles du diocèse de Sar ont pris part du 16 au 19 mai 2025 au pèlerinage diocésain au sanctuaire marial du Bar Sar sous la présidence de Mgr Miguel Sébastien. Venus des différents mouvements des jeunes et d'adultes ainsi que des services de différentes paroisses du diocèse de Sar, ce pèlerinage diocésain a permis aux fidèles de se ressourcer spirituellement, mais aussi de présenter à la Sainte Vierge Marie leurs joies et leurs peines. Plus de détails avec Edouard Takadji.
Dans une catéchèse qu'il a donnée lors du pèlerinage, l'ordinaire du lieu, Mgr Miguel Sébastien, est revenu plusieurs fois sur la question de la paix avant de se pencher sur l'espérance en cette année jubilaire placée sous le signe du pèlerin de l'espérance.
Notre vie, c'est une marche, c'est un pèlerinage vers le royaume de Dieu où Jésus nous attend avec sa maman Marie qui est devenue notre maman aussi, avec Dieu le Père et l'Esprit Saint. Il connaît nos problèmes car il est passé par cela, même plus de problèmes que nous, même plus de souffrances que nous, même une mort ignoble qu'il a subie. Nous ne sommes pas seuls. Courage, nous continuons à avancer, nous continuons à marcher. Le Christ est avec nous et nous avons reçu aussi de Dieu le don de l'espérance.
Notons que c'est sur une note de satisfaction que les pèlerins se sont séparés en se donnant rendez-vous l'année prochaine pour un autre pèlerinage diocésain. Edouard Takadji Ndjamena pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le Niger a demandé la résiliation des contrats de plusieurs travailleurs chinois du secteur pétrolier qu'ils somment de quitter le pays avant le 31 mai, a-t-on appris vendredi de sources officielles. Des tensions couvaient depuis des mois entre les sociétés chinoises du secteur pétrolier et le régime militaire nigérien, issu d'un coup d'État perpétré en juillet 2023. Dans une lettre adressée au président-directeur général de la China National Petroleum Corporation, Niger Petroleum, le ministre nigérien du pétrole, Sahabi Umaru, lui demande de résilier les contrats de travail de tous les expatriés, totalisant une durée de plus de 4 ans dans le secteur pétrolier, à compter du 8 mai 2025. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, sont convenus de coopérer dans la lutte contre le terrorisme et de sauvegarder les acquis de l'intégration régionale, malgré leur séparation annoncée, selon un communiqué commun jeudi, après leur rencontre à Bamako. Lors de leurs premiers échanges directs jeudi, la CEDEAO et l'AES ont exprimé une préoccupation commune sur la situation sécuritaire et sont convenus de l'urgence de travailler à créer les conditions nécessaires à une coopération efficace dans la lutte contre le terrorisme, indique leur communiqué. Cette rencontre a réuni le président de la commission de la CEDEAO et les ministres des Affaires étrangères de l'AES en prélude aux négociations portant sur les questions d'intérêt commun suite au retrait des trois États de l'organisation ouest-africaine. Les affrontements entre l'armée sud-soudanaise et la branche armée du parti du rival du président ont depuis février tué au moins 75 civils et blessé au moins 78 civils, a indiqué le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, vendredi. Le Soudan du Sud, plus jeune état de la planète, qui a acquis son indépendance du Soudan en 2011, a été plongé dans une violente guerre civile entre 2013 et 2018 qui a fait quelque 400 000 morts et 4 millions de déplacés. Un accord de partage du pouvoir entre les belligérants a permis un calme précaire. Mais depuis plusieurs mois, de violents affrontements opposent le camp du président Salva Kiir et celui du vice-président Riek Machar, arrêté au mois de mars. 10 ans après la publication de Laudato Si, cette encyclique qui a été reçue par le monde entier au-delà des frontières de l'Église catholique, beaucoup de mouvements environnementalistes et de protection de la nature sont nés à la suite de cette encyclique. Mais les problèmes dénoncés par Laudato Si restent d'actualité et semblent même prendre une ampleur démesurée. Quel avenir pour la vision voulue par le pape François après sa mort? Peut-on espérer qu'un nouveau paradigme de développement se mette en place par l'influence de cette encyclique? Nous en parlons avec Tebaldo Vinci-Guerra, spécialiste de l'environnement au sein du Dicaster pour le service du développement humain intégral.
L'encyclique a ouvert un chemin, un nouveau paradigme pour l'analyse, le discernement et l'engagement. C'est le paradigme de l'écologie intégrale qui est proposé au 4e chapitre de l'encyclique. Une vision d'interconnexion. Le pape répète régulièrement « tout est lié ». Une vision également qui a une finalité. L'espoir pour l'Église, c'est une vie riche en sens, une vie bonne. Ou si vous préférez, avec ce concept qui est à la mode depuis pape Paul VI, un développement humain intégral pour tous. Le chemin est assez clairement balisé par l'encyclique. Maintenant, ce n'est pas l'Église en tant que telle qui va écrire les politiques pour les continents ou pour les pays. Ce sont les différentes institutions, les différents gouvernements qui peuvent ou pas emprunter ce chemin et l'adapter de la meilleure façon possible à leur contexte local.
Les problèmes dénoncés par Laudato aussi, la pollution, les changements climatiques, la rareté de l'eau, la perte de biodiversité, l'inégalité planétaire semblent prendre une ampleur démesurée quand on considère par exemple les rapports publiés par les organes d'observation des Nations Unies. Eh bien, qu'est-ce qui justifie l'impuissance de la communauté internationale, puisque vous en avez parlé, ce n'est pas à l'Église de créer des politiques économiques, mais ce sont ces communautés internationales.
Alors, certaines choses expliquent cette impuissance. Le Saint-Père François, en particulier, a insisté sur la prépondérance d'un paradigme technocratique qui tend à influencer les mentalités, à influencer les cultures, à homogénéiser une certaine forme de développement sans subtilité, sans considérer le contexte local. Laudato Si a dénoncé la force de certains intérêts particuliers qui, de par leur puissance économique, militaire, médiatique ou politique, arrivent à s'imposer. Alors cette gouvernance nécessaire, le niveau international, le niveau continental, le niveau national, le niveau local, n'arrive pas à fonctionner correctement à cause de ce genre de problème. Mais soyons prudents et ne nous acharnons pas contre le système, la gouvernance, les institutions. Notre dimension personnelle est également mise en cause. Quel choix dans ma liberté? Quel choix en ma conscience? Quel choix, compte tenu des informations dont je dispose et des alternatives auxquelles j'ai accès, quel choix puis-je poser dans mon rapport avec l'autre, dans mes achats, dans mon style de vie, dans mon vote, dans l'éducation que je donne à mes enfants?
Vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de faire un pas en arrière sans pour autant perdre des ressources financières? Parce que comme on l'a dit entre-temps, la machine doit continuer à tourner.
Soyons clairs, je souhaite que la machine continue à tourner. Mais quelle machine? Pour qui tourne-t-elle? Et qu'est-elle en train de produire? Indéniablement, une quantité vertigineuse de richesses est créée aussi dans le virtuel. L'encyclique, soyons clairs, est positive par rapport à l'économie en tant qu'idée générale. Le pape s'intéresse énormément à l'économie dans Laudato Si, qui est, rappelons-le, une encyclique sociale. Un sous-paragraphe est consacré au travail. Un sous-paragraphe est consacré au dialogue avec la politique, avec le monde de l'économie. Puissions-nous avoir une orientation de la production industrielle, de la production agricole et de la planification de la recherche et du développement et donc de la mise en œuvre de la technologie qui soit au service de la dignité humaine et qui considère le futur de la planète.
Vous venez de suivre Tebaldo Vinci Guerra, spécialiste de l'environnement au sein du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Il était interrogé par Fabrice Baguendekere. Et refermons cette édition avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Parole à Françoise Niamia.
Commençons, Christian, cette synthèse de l'actualité internationale par cette annonce faite vendredi par le président américain Donald Trump. Il s'agit d'un gros échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, félicitant les pays et se demandant si cela pourrait augurer de quelque chose d'énorme, possible référence à des négociations entre les belligérants. Cet échange de prisonniers rentrera en vigueur sous peu. Et le président américain Donald Trump, qui a menacé vendredi d'imposer au moins 25% de droits de douane à Apple si l'entreprise ne fabrique pas ses iPhones aux États-Unis. Les désarmements des camps de réfugiés palestiniens au Liban va commencer à la mi-juin sur la base d'un accord avec le président palestinien Mahmoud Abbas en visite officielle au Liban, a annoncé vendredi un responsable gouvernemental libanais. Les parties libanaises et palestiniennes sont convenues de mettre en œuvre un plan pour retirer les armes à partir de la mi-juin dans les camps de Beyrouth, puis dans les autres camps du pays qui échappent au contrôle de l'État depuis la fin des années 60, a précisé ce responsable. Plus de 2 millions de personnes en danger de mort imminente dans la bande de Gaza. Il est injuste de faire de la nourriture une arme, lance l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui exhorte Israël à avoir pitié de Gaza. Dans une bande de Gaza où plus de 53 000 personnes, en majorité des civils, ont été tuées, 94% des hôpitaux sont endommagés ou détruits, le matériel médical est utilisé comme une arme, déplore l'OMS, même raisonnement pour l'aide humanitaire. Elle entre au compte-gouttes depuis jeudi. Cela est largement infusant face à la famine qui se propage dans l'enclave palestinienne. Martina Marchio est responsable médicale à Médecins sans frontières.
Malheureusement, seul un très petit nombre de camions a réussi à entrer dans la bande de Gaza et ils n'ont pas encore été reconnus comme aide humanitaire. Ces camions sont totalement insuffisants pour répondre aux besoins de plus de 2 millions de personnes qui meurent de faim et de soif depuis plus de 2 mois. La situation dans les centres médicaux se complique de jour en jour. Ce n'est pas seulement dû à la fermeture totale de la frontière depuis plus de 2 mois, mais aussi au fait que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de ce conflit. Malheureusement, les gens se retrouvent chaque jour dans l'obligation de se déplacer en raison des attaques violentes et brutales perpétrées simultanément dans plusieurs parties de la bande de Gaza, mais aussi des ordres d'évacuation massifs qui arrivent dans de nombreuses régions. Dans le même temps, il y a de moins en moins d'espace disponible. Les gens s'entassent sur chaque centimètre carré de terrain restant, ce qui signifie bien sûr que les quelques hôpitaux encore debout et les quelques cliniques ambulatoires doivent répondre à des besoins croissants. Malheureusement, de nombreux blessés arrivent encore dans les quelques hôpitaux qui fonctionnent partiellement et les cliniques sont surchargées de patients souffrant de problèmes de santé primaires, de malnutrition, de maladies chroniques.
Et à tant d'autres.
Au Royaume-Uni, le solde migratoire a baissé de moitié sur 1 an. Un soulagement pour le premier ministre travailliste Starmer, arrivé au pouvoir en juillet dernier, qui continue la ligne dure des conservateurs pour réduire le nombre des entrées dans les îles britanniques. Le solde migratoire est utilisé à des fins politiques. Après la percée du mouvement Reform, dirigé par Nigel Farage, le premier ministre travailliste n'est pas assuré d'obtenir un nouveau mandat de 5 ans.
Merci, Françoise.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Très chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition en notre compagnie et restez branchés sur nos programmes.